Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année. La fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray.
Bonjour, c'est à propos de l'utilitarisme américain que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Cette approche a été, à mon avis, souvent décriée, dénoncée par des psys français comme des outils utilisés par des psys américains pour adapter les conduites, les comportements aux exigences du libéralisme économique. Qu'en pensez-vous ?
Oui, vous avez raison de dire que ce courant philosophique a été entaché par un certain nombre de fausses lectures ou de mauvaises lectures, dont deux. La première, celle de Marx, la deuxième, celle de Michel Foucault. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui en France de toute cette philosophie anglo-saxonne, utilitariste et pragmatique, parce que nous, on est branchés sur le courant très vieille Europe, c'est-à-dire plutôt philosophie germanique, donc l'idéalisme. L'idéalisme allemand, la grande tradition platonicienne. Si ici on fait une contre-histoire de la philosophie, c'est justement pour montrer que cette philosophie dominante en a dominé une autre, et que la philosophie dominée en Occident, elle a été matérialiste, sensualiste, empirique, et puis récemment utilitariste et pragmatique. Moi, j'ai fait 8 ans d'études à l'université, on m'a jamais parlé une seule fois d'utilitarisme et de pragmatisme. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, alors qu'on m'a parlé abondamment de Kant, de Saint-Anselme, de Platon, de Descartes, de Malebranche, on m'a parlé de tout ça, bien sûr. Pourquoi jamais de référence à cet autre continent philosophique qui se retrouve soit en Angleterre, soit aux États-Unis, et qui me paraît, moi, très intéressant. Il est très intéressant parce que, justement, il était une alternative à la vision du monde platonicienne. Cette vision du monde qui suppose qu'il y aurait des idées, des concepts, et que la vérité du réel serait plus dans l'idée que dans la réalité matérielle. Platon nous fait savoir que la vérité du monde est dans l'idée du monde, et que la sensibilité du monde, ou le monde phénoménal, le monde sensible, c'est une chose dégradée, c'est une participation dégradée de l'idée, et que, d'une certaine manière, ce qui compte en nous, c'est notre âme, c'est pas notre corps. Notre corps procède du sensible, notre âme procède de l'intelligible, de ce que Kant appellera le nouménal, et en fait, mourons à notre propre corps, nous dit Platon, dans le Phédon très précisément, mourons à notre propre corps pour libérer l'âme qui, elle, est faite du même matériau immatériel que les idées et le ciel des idées. Et quand on aura réussi cette espèce d'association entre notre esprit, notre âme, et puis le ciel des idées, alors nous serions susceptibles de connaître une espèce de jouissance ou de béatitude, du moins la connaissance, nous dit le livre 7 de la République de Platon, et une jouissance et une béatitude, nous dit Plotin, qui est un néo-platonicien, enfin un platonicien plus tardif, et qui lui fait savoir dans les Énéades qu'il a passé sa vie entière à mépriser son corps, sa chair, etc., et qu'il a connu 3 ou 4 fois une espèce d'orgasme sans corps, parce qu'il a réussi à associer son âme avec le nous, le principe de l'intelligence du monde. Donc on a cette tradition-là, et cette tradition-là, elle continue avec les chrétiens, avec le Moyen-Âge, qui lui aussi reprend cette distinction-là, une distinction très intéressante dont on ne m'a non plus jamais parlé à l'université, mais je veux dire, on parle de peu de choses à l'université, cette querelle essentielle entre ce qu'on appelait les réalistes et les nominalistes, avec un paradoxe très étonnant. Un nominaliste est quelqu'un qui dit, évidemment, on peut dire la table. C'est pratique pour parler, si je vous dis sur cette table il y a, etc., en sachant très bien que quand j'aurai dit table, vous aurez compris ce que j'entendais par table. Donc un nominaliste dit, les mots ne sont que des mots, ils ne représentent rien d'autre que des occasions de penser, mais il n'y a pas de vérité qui serait l'idée de la table. Il n'y a que la réalité. Le nominaliste dit, il n'y a pas d'idée de table, il n'y a que des tables réelles. Singulièrement, le réaliste, lui, nous dit, la vérité de la table, elle est dans l'idée de la table. C'est-à-dire que si je vous parle d'une table et qu'il n'y a pas de table ici, eh bien il faut que conceptuellement vous ayez pu imaginer une table sans plateau auquel il manquerait les pattes, si vous voulez, pour que vous, et sans matière, qui ne soit pas en bois, mais en aucune substance, pour que vous puissiez disposer de quelque chose qui ressemblerait, un tant soit peu, à l'idée de la table. Querelle entre nominalistes et réalistes. Les nominalistes ont raison. J'aurais dû en parler probablement dans ces 8 années, mais c'est une philosophie qui n'est pas très hédoniste, donc je l'ai laissée de côté. Elle est très théorétique, je dirais. Mais le courant nominaliste a perdu. Et le courant réaliste, donc entendons-nous bien, le courant qui nous dit que le réel est une idée, donc il y a un paradoxe à se présenter comme un courant réaliste, ce courant-là, il a disparu et on a continué avec Descartes, avec sa substance étendue, sa substance pensante. La substance pensante, c'est l'âme. L'âme, elle est immatérielle. Il a beau s'exciter toute sa vie, Descartes, pour nous dire mais comment ça marche, une association entre de l'immatériel dans du matériel, comment est-ce que l'âme immatérielle peut être dans un corps matériel. Il va chez un boucher et puis il ouvre des cerveaux et puis assez probablement des cadavres humains qu'il achète pour pas cher et qui sont sur le gibet, pendus au gibet, et il fait des dissections, il trouve une espèce de glande, il se dit ben, ça c'est la glande pinéale, c'est l'épiphyse, c'est le lieu de, aujourd'hui, c'est le lieu de l'association de l'immatériel et du matériel, et l'affaire est réglée. Et puis vous continuez comme ça, et vous avez le nouménal et le phénoménal chez Kant, et puis vous avez les idées qui continuent, et puis chez Freud, et on y va, vous avez le somatique et l'inconscient, le soma germinal, qui est la chair, qui est le corps, et puis l'inconscient, qui serait nouménal, et vous avez cette grande tradition, elle a gagné. Elle a gagné pour une raison bien simple, c'est que le christianisme est dans cette logique du dualisme, du spiritualisme, de l'idéalisme. Il lui faut un matériel conceptuel qui permette de dire il y a de l'idée pure, il y a du Dieu, il y a de l'immatériel, vous avez une âme. Cette âme, elle n'a rien à voir avec la matière, mais quand vous êtes mort, elle se dégage du corps, elle s'en va dans un lieu où elle peut encore être punie, ou sauvée, ou guérie, voire le purgatoire, etc. Et les beaux travaux sur la naissance du purgatoire, de Delumeau. Et vous avez cette philosophie-là qui triomphe parce que quand vous avez les pères de l'Église qui s'installent là-dessus, tous sont dans des logiques idéalistes et pas matérialistes. Donc nous, sur le continent européen, on célèbre cette tradition-là. La tradition matérialiste, la tradition sensualiste, empirique, etc., elle procède d'Épicure. Épicure nous le fait savoir dès le départ, il n'y a que de la matière, il n'y a que des atomes, il n'y a que des atomes dans le vide qui constituent la totalité du réel. Cette table, cette bouteille, ce livre, etc., moi, vous, tous, il n'y a que des agencements atomiques. Donc on est dans une vision moniste et pas dualiste. Il n'y a qu'une réalité, et elle est strictement matérielle. Et cette réalité strictement matérielle, elle n'a rien à voir avec des idées. Elle n'a rien à voir avec un monde d'idées pures qui donnerait son sens à ce monde-ci. Et vous avez une espèce de pensée pré-utilitariste chez Épicure. Et bon, il reste que des fragments, hein, c'est peu de choses. Mais vous avez, par exemple, dans la théorie du contrat politique, quelques phrases, 4 ou 5 lignes, mais où on voit effectivement qu'on est dans une théorie nominaliste, dans une théorie atomiste, dans une théorie moniste, et qu'on nous dit que le bien et le mal n'existent pas, mais qu'il n'existe que du bon et du mauvais, et que le bon et le mauvais sont en relation avec un objectif qu'on se sera proposé. Je prends souvent cet exemple, et vous m'excuserez pour ceux qui l'auront déjà entendu, mais l'exemple du mensonge chez Kant, pour essayer d'expliquer ce qui distingue un idéaliste d'un utilitariste. Kant nous dit « le mensonge, il est interdit dans l'absolu ». Il dit « voilà, il disqualifie la source du droit ». Le mensonge disqualifie la source du droit. C'est-à-dire que si vous avez menti un jour à quelqu'un, eh bien, il sera en droit de considérer que vous pourriez lui mentir tout le temps. C'est ce que Nietzsche dit quand il écrit « ce qui me gêne, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire ». Kant dit donc « on dit toujours la vérité, quoi qu'il arrive ». On dit toujours la vérité. Donc, je prends cet exemple d'un personnage qui rentrerait dans une pièce, et on est en juillet 40, et vous êtes à Paris ou n'importe où ailleurs, et vous avez un juif qui rentre avec une étoile jaune dans votre maison, vous êtes en train de dîner, il se cache sous un meuble, et puis 2 secondes après, vous avez la Gestapo qui arrive et qui dit « Est-ce que quelqu'un est entré chez vous ?» Vous avez une question, vous avez 2 possibilités de répondre à cette question-là, vous dites la vérité, vous dites oui, ou vous mentez et vous dites non. Si vous dites la vérité, vous n'avez pas disqualifié la source du droit. Quoi qu'il arrive, dit Kant, vous aurez été dans la moralité. La moralité, elle est dans l'intention, nous dit Kant. C'est pour ça que c'est invivable, Kant. Enfin, il nous dit la moralité, elle est dans l'intention. Et elle n'est pas dans les conséquences. Il vaut mieux respecter une intention pure et éventuellement avec des conséquences qui seraient mauvaises, en l'occurrence ici, on le sait bien, la mort d'un homme, plutôt que de dire la conséquence importe et je vais mentir parce qu'il s'agit de sauver un homme. Kant nous dit... La moralité, elle est dans le respect de l'intention. Donc si vous faites quelque chose pour respecter une bonne intention et que ça se passe mal, Kant vous dit « peu importe, le problème, il n'est pas là ». Narguez pas du fait que ça aurait pu mal se passer pour mentir, il n'y a pas de bonne raison de mentir. Là, on est dans la grande tradition idéaliste, spiritualiste, européenne, européano-centrée, on est dans une logique chrétienne extraordinaire. Là, vous avez trouvé un truc, de toute façon, la police, elle est dans votre cerveau. C'est clair, le curé, il est dans votre cerveau. Donc, si vous respectez totalement l'intention, l'affaire est réglée, vous savez ce qu'il faut faire et vous obtiendrez votre paradis. Un utilitariste vous dira, le bien et le mal, ça n'existe pas. Quand il vous dit, mentir, c'est bien, mentir, c'est mal, dire la vérité, c'est bien. Un utilitariste vous dira, il y a des situations concrètes, on est dans le nominalisme, il y a des situations concrètes, et par exemple celle-ci, le juif qui rentre chez vous avec son étoile juive, vous savez qu'il est persécuté, vous savez que si vous le mettez entre les mains de la Gestapo, il va mourir, c'est clair, et le type de la Gestapo qui vous dit, est-ce que quelqu'un vient de rentrer, et vous dites, non. On est dans la casuistique, hein, bien sûr. Donc éventuellement, il s'en va, et vous avez sauvé la vie d'un homme, au prix d'un mensonge. D'aucuns disent, même les chrétiens, il y a des mensonges pieux, quoi. Il y a des moments où, si c'est pour le bien, on peut de temps en temps justifier ce genre de choses. Un utilitariste vous dira, avant de répondre à cette question-là, demandez-vous si c'est bon pour le projet qui est le vôtre, ou si c'est mauvais pour le projet qui est le vôtre. Le projet qui est le vôtre, s'il s'agit de sauver un homme, alors le mensonge est bon. S'il s'agit, enfin, voyez, multipliez les explications comme ça et vous verrez qu'effectivement, la grande tradition, elle oppose l'idéalisme européen à l'utilitarisme anglo-saxon. Alain dit très bien, le mensonge, c'est quand on ne dit pas la vérité à qui on la doit. On ment quand on ne dit pas la vérité à qui on la doit. Et on ne doit pas la vérité à tout le monde. Si vous dites « je dis la vérité » et que le prix de la vérité, c'est la mort d'un homme ou quoi que ce soit d'autre, une douleur, une souffrance ou je ne sais quoi, vous pouvez dire « alors je ne dis pas la vérité ». Et vous êtes dans la logique utilitariste anglo-saxonne, ce qu'on appelle conséquentialiste. C'est la conséquence qui est l'occasion de votre choix moral. C'est-à-dire il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et il faut faire le bien et être dans une logique politique qui est très claire, c'est celle d'Helvétius. Il s'agit d'obtenir le plus grand bonheur du plus grand nombre possible. Donc, tout ce qui permet d'aller dans ce sens-là, le plus grand bonheur du plus grand nombre possible, c'est bon. Donc, ça devient bien, si vous voulez, mais c'est bon. Si ça passe par le mensonge, si ça passe par la trahison, la tromperie ou je ne sais quoi, tromper, menter, trahisser, de toute façon, la fin, elle justifiera les moyens, on dira pour le coup. Hein. C'est un peu comme ça qu'il faut penser les choses. Donc, l'utilitarisme, il a une source, elle est française. Je l'ai proposé quand j'ai fait le 18e siècle, quand j'ai abordé la question du 18e siècle, c'est chez Maupertuis. J'ai cherché des dates et je me suis dit, mais le plus ancien, je me suis dit, est-ce qu'il y a du conséquentialisme avant Maupertuis ? Je vous disais oui, puisqu'il y avait Épicure. Mais Maupertuis écrit un petit livre magnifique, un essai sur la morale, très, très mathématique, très sec, vraiment à l'os, comme ça, et où il vous explique tout ce que je suis en train de vous expliquer. Le conséquentialisme, l'utilitarisme, l'idée qu'il n'y aurait pas le bien, le mal, mais qu'il n'y aurait du bon et du mauvais, chose qu'on trouve déjà chez Spinoza. Spinoza nous dit exactement la même chose, il n'y a pas un bien, il n'y a pas un mal, il y a un bon et il y a un mauvais, et nous appelons bon ce qui nous convient et mauvais ce qui ne nous convient pas. Et dans l'éthique, il nous dit ça, Spinoza, mais dans une lettre, il fait savoir qu'il y a deux courants philosophiques, et dont un courant qui est celui de Démocrite, Leucippe, Épicure, etc., qui est plutôt le sien. Tout le monde oublie un peu ça, mais Spinoza l'écrit. Et puis un autre courant, celui de Platon, etc., et qui n'est pas vraiment le sien complètement. Donc Maupertuis écrit ça, philosophe français, 18e siècle, et les anglo-saxons s'emparent de ça, via Helvétius, qui lui aussi est un disciple de Maupertuis, et ça passe la Manche, et ça se retrouve chez Jérémy Bentham. Jérémy Bentham est le philosophe de l'utilitarisme, et il est anglais. Donc ça devient la philosophie de l'Angleterre de cette époque-là, fin 18e, début 19e siècle. Et la première critique, je n'oublie pas que je vous en avais parlé, la première critique, elle vient de Marx, qui assassine clairement Bentham en disant « Bentham, c'est le penseur de la petite bourgeoisie, c'est le penseur de la propriété privée, c'est le penseur du capital, petit capital ou grand capitalisme, c'est le philosophe qui justifie effectivement que tout est dans l'utilité et que finalement il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur et que tout dépend d'une espèce de bien-être individuel, personnel, égocentré, hédoniste, très condamnable parce que la vérité n'est pas là, elle est dans la révolution et la victoire du prolétariat. » Via l'histoire que vous connaissez, dictature du prolétariat, avant-garde éclairée du prolétariat, ce genre de choses. Donc des pages extrêmement violentes, comme Marx savait faire, quand il avait quelqu'un dans le nez, il cognait fort. Et vous avez un livre qui s'appelle La Sainte Famille, et certains s'en sont jamais remis. Vous avez des analyses contre Bruno Bauer, vous avez des analyses sur Feuerbach, vous avez des analyses sur Stirner, Misère de la philosophie, par exemple, l'assassinat de Proudhon, enfin des gens qui ne s'en sont jamais remis. Et Bentham ne s'en est jamais remis. L'utilitarisme non plus. Parce que d'un seul coup, vous aviez Hegel, grand philosophe de la Révolution, pré-révolutionnaire, dans l'esprit de Marx, entendons-nous bien, grand philosophe qui permet de penser la Révolution, notamment, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec la question de la dialectique. Vous avez de la négativité, mais cette négativité-là, elle est faite pour produire de la positivité, ce fameux, ce qui reste en classe de terminale avec thèse, antithèse, synthèse, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une proposition, et puis vous avez quelque chose qui est la contradiction de cette proposition-là. Un, faisons la révolution. Deux, ouvrons des camps de concentration. Trois, nous aurons le bonheur éternel. Parce que le moment dialectique est un moment qui est nécessaire pour parvenir à la vérité, par exemple, de la révolution. Donc la dialectique de Hegel, idéaliste évidemment, la dialectique de Hegel, c'est la dialectique qui justifiera la position révolutionnaire de Marx. Donc, en ce sens, Bentham devient le philosophe à opposer à Hegel pour Marx. Donc on a cette idée que Bentham égale l'argent, égale les États-Unis, égale les pays anglo-saxons, égale le capitalisme de la période industrielle au XIXe siècle. C'est une sottise totale. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un cours sur Owen, par exemple, qui est un des premiers socialistes à cette époque-là. Et Owen est un utilitariste. Ça me paraît clair. Et ces choses-là n'ont pas été dites. Mais enfin, il ne fait pas dans la dentelle, Marx. Et puis, il y a un deuxième personnage qui assassine Bentham, c'est Michel Foucault. Dans un très beau livre, par ailleurs, qui s'appelle « Surveiller et punir », et toujours un peu dans l'esprit marxiste. Et de fait, comme je dis souvent, que même les athées sont souvent imbibés de christianisme, même les gens qui n'ont jamais été de gauche sont souvent imbibés de marxisme. Il y a cette idée qui traîne que Bentham, c'est le philosophe de la bourgeoisie, et que donc c'est un mauvais philosophe ou un mauvais penseur. C'est toute la pensée carcérale qui est en jeu dans « Surveiller et punir » chez Foucault. Et Foucault aborde une question qui est celle du panoptique. Alors c'est un petit peu comme avec les gens qui n'ont pas le sens de l'histoire et qui aujourd'hui râlent contre les grands ensembles, les barres d'immeubles dans la banlieue. Oui, c'est vrai, c'est devenu ça. Simplement, quand on construit ça dans les années 50, c'est parce que le général de Gaulle dit qu'il faut en finir avec les bidonvilles. Donc il y a les bidonvilles, avec ce qu'on sait, quoi, de saleté, de crasse, de promiscuité, les gens qui vivent dans des cartons, dans du papier, dans la boue, dans la saleté, dans la saloperie, etc. Et vous avez un plan qui dit, voilà, on va faire des immeubles. Et dans ces immeubles, on va faire eau, gaz, électricité, propreté, etc. Et les gens vont pouvoir, pour des loyers modestes, habitation à loyer modéré, HLM, on va permettre de sortir les gens de cet endroit-là pour les mettre dans les bars, dans les immeubles. Aujourd'hui, évidemment, on oublie que ça procédait d'une espèce d'humanisme du capitalisme paternaliste à cette époque-là. Et évidemment, plus personne ne sauve les barres d'immeubles. C'est la même chose avec Bentham. Les prisons sont des culs de basse fosse à l'époque. C'est vraiment... quand vous êtes dans une prison, il n'y a évidemment plus de justice, il n'y a plus d'humanité, vous êtes dans l'animalité la plus totale, on oublie des gens qui sont enchaînés, au sens véritable du terme, c'est-à-dire à qui on met les fers, on accroche cette chaîne à un mur, on scelle dans le mur, et puis vous avez des gens qui passent des années à manger, comme ça, un bout de pain, un peu d'eau, et qui passent 20 ans dans une prison pour n'avoir rien fait. Vous voyez Jean Valjean, vous voyez Victor Hugo. Et Bentham dit « il faut humaniser les prisons ». Il n'est pas question que les gens qui aient fait ce qu'ils ont fait soient punis éternellement et qu'on s'acharne sur eux. Donc il faut des prisons propres, nettes, modernes, salubres. Et il y a tout un système chez Bentham où il nous dit qu'il faut que les gens puissent dormir, avoir des cellules individuelles, avoir de l'eau courante. On est dans des logiques quand même assez sidérantes, hein, d'humanisation des prisons. Alors on peut toujours dire pas de prison, il ne faut pas de prison, quand les hommes vivront d'amour, etc. On peut penser ça. Mais on peut aussi penser qu'il faudra des prisons aussi longtemps qu'il y aura des hommes, et que le problème n'est pas prison ou pas prison, mais quelle prison ? Et qu'un philosophe pragmatique n'est pas quelqu'un qui dirait « mais faisons la révolution, parce que la révolution, elle empêchera l'exploitation, et l'exploitation empêchera la misère, la fin de l'exploitation supprimera la misère, et la misère qui est la cause de la délinquance fait qu'on n'aura plus besoin de flics, de militaires, etc. » On peut le penser, mais on fait quoi en attendant ? Donc Bentham est quelqu'un qui est pragmatique, et qui dit effectivement, il y a des gens qui sont insociables, et avec lesquels il faut envisager une politique de rééducation. Il n'est pas question pour lui de les mettre dans des culs de basse fosse en disant on les traite comme des animaux. Il est question de dire, voilà, on leur donne des vêtements propres, on les réhabilite, on les invite à la morale, on les réinvite à nouveau à la morale, etc. Mais peu de gens ont lu Bentham. C'est monstrueux, l'œuvre complète de Bentham. Peu de gens ont lu les propos du panoptique, qui sont les propos explicitement analysés par Michel Foucault, mais singulièrement en platonicien. C'est-à-dire que Foucault ne veut pas voir ce que sont les conditions historiques de production de ce texte-là, en se disant « mais ça, c'est un progrès ». Par rapport à ce qui avait lieu à l'époque. C'est quand même quelqu'un, Bentham, qui est quand même extrêmement moderne, qui suppose qu'il faut en finir avec le colonialisme, qui suppose qu'il faut en finir avec l'homophobie. C'est-à-dire, on est quand même à la fin du XVIIIe siècle. On est chez un type ultra-moderne. Alors il dit, mais pas parce qu'il faut aimer les homosexuels, parce que ce serait politiquement correct, ou ce genre de choses, ou parce qu'il faudrait aimer les gens de couleur, ou ce genre de choses. Il dit, non, mais c'est de l'argent perdu, tout ça. Les colonies, laissons ces gens-là produire dans leur coin, nous produisons ailleurs et autrement. Enfin, c'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde, plutôt que qu'on la condamne comme ça, parce que le panoptique suppose, panopticon, c'est-à-dire voir de partout, si vous voulez, une construction architecturale. Il avait mis de l'argent personnel dans cette aventure, Bentham, en disant, voilà, on est une espèce de tube, et puis on a des cellules tout autour, et dans cette espèce de tube, vous avez des gardiens de prison, et les gardiens de prison voient ce qui se fait tout le temps en permanence. Donc on voit tout le temps ce que font les prisonniers. En même temps, le prisonnier ne voit pas s'il est vu. Mais il peut être vu toujours. Donc être vu une fois, c'est pouvoir être vu toujours. Donc il y a une espèce de comment pourrait-on dire, du fait de vivre sous le regard d'un maton perpétuel sans qu'on sache qu'il nous regarde en permanence. Il y a une espèce de totalitarisme, dirait Foucault. Il y a une espèce de violence faite aux prisonniers. Mais il explique simplement que pour des raisons de comptabilité, des raisons comptables plutôt, il vaut mieux avoir un gardien de prison plutôt que 20. Et puis, il vaut mieux laisser croire qu'un gardien de prison peut en surveiller 20, même s'il ne peut en surveiller qu'un à chaque fois, et que, etc. Enfin bon, ça supposerait qu'on ait une lecture historique du panoptique de Bentham, de l'inscription de cette pensée-là, de ce dispositif-là dans une pensée qui est vraiment la pensée libérale, qui est une pensée que, par ailleurs, je ne défends pas. Enfin, j'ai fait un cours là-dessus pour expliquer qu'effectivement, c'était une des modalités du déisme, sa fameuse main invisible qui régule le marché, c'est toujours la main de Dieu, et on se la prend toujours dans la figure, les plus pauvres surtout, et l'idée qu'on puisse résoudre le problème autrement que par une prison, enfin, c'est autre chose. Mais je veux dire que le texte de Bentham ne dit pas ce que Foucault lui fait dire. Mais quand vous prenez une baffe par Marx, une autre par Foucault, c'est difficile d'être lu aujourd'hui sereinement. Si vous vous réclamez de Bentham en disant « c'est très intéressant, la pensée du droit chez Bentham est une pensée extrêmement intéressante ». Suivant que vous soyez idéaliste, platonicien, et que vous pensiez la question de la punition, que vous pensiez la question de la culpabilité avec P majuscule ou C majuscule, ou que vous pensiez en nominaliste, en disant « mais on n'est pas là en train de punir un cas de figure, on punit un individu ». Est-ce que, par exemple, quand on punit Klaus Barbie, on doit punir un personnage qui serait la Gestapo en France, voilà, il est la Gestapo en France, ou est-ce qu'on punit quelqu'un qui s'appelle Klaus Barbie ? Est-ce que quand on punit une femme qui a la manie fâcheuse, me semble-t-il, de mettre tous ses enfants au congélateur quand ils naissent, est-ce qu'on va, par exemple, faire un procès de la meurtrière d'enfants ou de la femme de l'infanticide avec un I majuscule, ou est-ce qu'on fait le procès de telle personne concrètement ? La France n'a pas réglé ce problème-là. Les pays anglo-saxons ont réglé ce problème-là. Ils n'ont pas de tradition platonicienne derrière eux, donc ils considèrent effectivement qu'on a un cas, et que le cas n'est pas un cas d'école, et qu'un cas, c'est un cas particulier. On est dans le nominalisme, on est dans le pragmatisme, on est dans l'utilitarisme. Alors évidemment, la philosophie, les philosophes français de profession détestent la philosophie américaine, la philosophie anglo-saxonne, voire la philosophie analytique, puisqu'ils sont parfois sur des philosophies analytiques d'une épistémologie très, 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 très intéressante, nettement plus que nos délires sur la linguistique dans les années 70. Et il y a une incapacité en France à penser cette philosophie-là en dehors du vieux schéma qui consiste à dire pensée de droite, pensée du libéralisme, donc pensée inintéressante, donc pensée du capital, donc pensée du capitalisme ou ce genre de choses. Ce qui fait que quand vous pensez en termes utilitaristes et pragmatiques, eh bien vous découvrez qu'il y a autre chose que la condamnation, la vieille condamnation qui a été faite par le vieux continent, parce qu'il y a une incapacité à aller voir précisément comment ça fonctionne. Voilà pourquoi il y a des endroits aux États-Unis. Moi, j'ai été invité dans des universités pour faire des conférences, et je suis invité par les départements de littérature. C'est-à-dire que pour les philosophes, pour les gens qui s'occupent de philosophie aux États-Unis, la fameuse French theory, la philosophie française, c'est de la littérature. Il n'est pas question pour eux que ce soit de la philosophie. Nous, on est des verbeux, et ils n'ont pas tort, la plupart du temps. Derrida, Lyotard, par exemple, ou Virilio, ou Baudrillard, ou Badiou ou des gens comme ça aujourd'hui, qui sont effectivement des grands manieurs de concepts, des grands idéalistes, des grands platoniciens, la révolution, la déconstruction, etc., etc. Donc ça, c'est de la philosophie française, mais ça marche sur quelques campus américains. Mais la philosophie française, alors là, quand je disais tout à l'heure qu'en 8 années d'études à la fac, je n'avais jamais entendu parler d'utilitarisme, de conséquentialisme, etc., si vous allez aujourd'hui chez Vrin, par exemple, la librairie spécialisée en philosophie à Paris, eh bien, il y a une époque où il n'y avait rien du tout. Comme ça, c'était clair. Mais là, vous pouvez aller chercher de la philosophie américaine, vous aurez assez peu de choses. Assez peu de choses par rapport au restant de la production. C'est pourtant, me semble-t-il, une occasion de philosopher autrement, différemment, et de réconcilier les gens avec la philosophie aujourd'hui. J'ai eu l'occasion déjà de parler d'un philosophe qui s'appelle Ruven Ogyen. Et Ruven Ogyen est un jeune, à peu près mon âge, donc ça fait partie des... On n'est pas encore barbon, théoriquement, mais donc des philosophes qui, écrivent en français, francophones, écrivent des philosophies extrêmement intéressantes, développent des pensées extrêmement intéressantes, sur la pornographie, par exemple, sur l'avortement, sur le génie génétique, sur la possibilité pour une femme d'être une mère porteuse, payée, ou ce genre de choses. Et là, on n'est pas dans une espèce de délire. Voilà pourquoi on avance si peu et si mal sur la question de la bioéthique. Parce que nous, on est dans des grands débats. On est dans des théories pures. L'allocation d'utérus. Non, c'est pas la question posée par Ruven Ogyen ou par quelques autres philosophes, Stanley Cavell ou d'autres, par exemple, des philosophes américains, ou Peter Singer, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire du bien, sont des questions éminemment concrètes. Et si vous posez une question éminemment concrète, je pense à Peter Singer qui nous dit « mais il y a des animaux qui, à la naissance, ont plus d'intelligence que des enfants qui naissent sans cerveau. Est-ce qu'on a le droit de supprimer les enfants qui naissent sans cerveau comme on supprimerait un rat qu'on dératiserait, par exemple ? Évidemment, ça choque. Peter Singer est interdit d'Allemagne pour cette raison-là. Ils ont un passé, comme vous savez, qui est un peu impassif aussi, les Allemands, sur ce terrain-là. Ils n'aiment pas qu'on leur pose les questions aussi clairement que ça. Mais c'est extrêmement intéressant. Thomas Nagel, par exemple, qui lui, dans un livre qui s'appelle « Questions philosophiques », se demande ce que ça peut faire que de penser comme une chauve-souris. Il dit comment la chauve-souris voit-elle le monde ? Ben voilà, c'est a priori c'est rigolo comme questionnement, comme façon de se poser. Eh bien, et le texte est vraiment très intéressant. Et puis vous avez la possibilité très européenne de poser la question du comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles et de renvoyer à la critique de la raison pure de Kant. Vous allez emmerder tout le monde et vous n'allez concerner personne, alors que Nagel est quelqu'un qui va vous concerner parce que dès le départ, c'est comme une espèce de d'énigme policière qui se trouve résolue comme ça. Donc moi, je suis pas, je parle pas l'anglais, j'ai des problèmes avec les langues, et je sais pas lire correctement, pas assez correctement les textes. Mais effectivement, si c'était traduit, peut-être qu'on trouverait des occasions de sortir la philosophie française du ghetto dans lequel elle se trouve, ou la philosophie européenne dans le ghetto dans lequel elle se trouve. Parce que l'alternative aujourd'hui, c'est soit une espèce de ghetto allemand, dans le genre, si ça donne l'impression d'être traduit de l'allemand, c'est très profond, et on n'y comprend rien, donc c'est sûrement très, très profond. L'alternative, c'est soit ça, soit des gens qui méritent des gifles, quoi. C'est-à-dire qui font de la philo, devenez philosophe en 2 heures, ou dans le genre, l'histoire de la philosophie en 45 pages, ou ce genre de choses qui sont des petits objets que le libéralisme adore, pour laisser croire que sans effort, vous pouvez devenir philosophe vite fait, tout Spinoza en 13 pages. Enfin, et ça, c'est aussi catastrophique que l'université. C'est-à-dire l'usage libéral du désir philosophique aujourd'hui et la réponse marchande aux besoins philosophiques m'effraie autant, voire plus. Je préfère des universitaires qui travaillent de manière pointue sur des sujets qui n'intéressent personne, mais qui peuvent un jour intéresser quelqu'un, plutôt que ces gens qui laissent croire que la philosophie, c'est ce que le marché en fait. Donc ni le ghetto universitaire, ni la prostitution libérale et marchande avec ces objets-là, mais une philosophie qui, elle, est conséquentialiste, utilitariste. Et je vous assure que pour des raisons politiques, eh bien, on s'en porterait mieux. On a un abord aujourd'hui de la politique qui est très platonicien, très idéal, très idéaliste, où vous avez des individus qui s'opposent, comme il y a des chapelles, la droite, la gauche, les écologistes. Est-ce que les écologistes, ça peut s'entendre avec les socialistes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que l'extrême droite, ça peut s'entendre avec la droite républicaine ? Quand est-ce qu'un type qui est à l'aile droite de la droite républicaine se retrouvera-t-il avec le type qui est sur l'aile gauche de la droite extrême ? Et puis, ouais, ce genre de choses. On dit, mais attendez, un Américain vous dira, mais attendez, quand vous avez voté pour un parti, vous n'êtes pas captif du parti. C'est pas parce que vous avez voté ce parti que le chef du parti disant il faudra voter ça la fois prochaine, j'appelle à reporter les voix sur, etc., qu'il faudrait le faire. dans une logique anglo-saxonne, on vous dirait, mais chacun est propriétaire de ses voix, de sa pensée, de sa réflexion, et de ses contradictions, même s'il le veut. Il peut très bien voter ici, là, ailleurs, autrement, différemment, un homme libre. Et je pense que si on pensait les projets de société en termes conséquentialistes, eh bien, on serait nettement plus performant qu'en les pensant sur des vieux modèles, qui sont des vieux modèles du 19e, quoi, hérités du 18e, des vieux modèles, des vieux schémas, où si on est de droite, c'est ça, si on est de gauche, c'est ça, si on est anarchiste, c'est ça, si on est d'extrême gauche, c'est ça, et c'est pas autre chose. Mais non, le monde bouge, le monde change, et après Auschwitz, après Hiroshima, après le Rwanda, après les catastrophes écologiques, après tout ça, on peut plus penser avec des catégories qui ont plus d'un siècle. Donc c'est effectivement une piste, une issue de secours pour nous tous, Européens, du vieux continent. Et je pense que les Américains, sur le terrain de la psychanalyse, puisque je n'oublie pas le début de votre remarque, et quoi qu'on puisse en penser, c'est effectivement cette idée que Freud est quelqu'un qui est resté prisonnier de l'idéalisme, du spiritualisme, du dualisme, de ce vieux schéma européen, quoi. C'est dominant. Et que s'il n'aime pas l'Amérique, c'est d'abord parce qu'il y a ces histoires d'argent, effectivement. Les Américains préfèrent des cures pas chères, rapides, efficaces, et un roulement de clients assez régulièrement comme ça, plutôt que des clientèles captives de bourgeois riches ou d'intellectuels fortunés, aujourd'hui d'animateurs de télévision, parce qu'ils sont tous psychanalysés, parce qu'ils ont les moyens de payer cher chez le psychanalyste en vue de Paris, et quand vous en connaissez un, vous finissez par savoir que... Moi, ça m'amuse un petit peu parce que je finis par savoir que tous les grands peintres, les écrivains, les gens importants de ceci, de cela, les hommes politiques qui vous font la loi et qui vont pleurer parce qu'ils ont peur d'avoir sodomisé papa dans leurs rêves les plus fous etc. Et tous ces gens-là s'en vont sur le divan parce qu'ils en ont les moyens, quoi. Non, aux États-Unis, on vous dit, vous avez une douleur, vous avez une souffrance, venez par ici, vous avez une thérapie rapide et elle est susceptible d'être efficace. Et on ne va pas vous raconter que quand vous avez fait 15 ans d'analyse, si vous êtes encore dans le besoin de l'analyse, c'est parce qu'il y a des restes de transferts mal liquidés et que vous êtes un peu coupable, d'ailleurs, de ne pas avoir fait le nécessaire avec vos résistances qui font de vous quelqu'un de pas bien, de pas gentil avec le papa analyste. Évidemment, vous avez des gens un peu plus adultes, quoi. Je pense que les psychanalystes américains sont plus adultes et sont moins dans la servitude. Alors avec le risque... Et là, il faudrait demander à mon ami Arnaud Gaillard de vous faire un speech là-dessus, mais de voir la psychanalyse devenant ce qu'elle est chez Woody Allen et dans le cinéma américain, quoi. Une espèce de pote que vous appelez à 3h du matin en disant « j'ai pas d'érection, j'arrive pas, et qu'est-ce qui se passe ?» Et bah, toi, vous avez une petite discussion de 3 minutes, et puis ça repart, enfin, théoriquement. Et vous verrez ça demain, dormez un peu ce soir, vous avez beaucoup bu. Enfin bon, vous faites une espèce de conseil conjugal. Et ça, c'est pas forcément mieux non plus. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bonne distance entre le ghetto du européen, enfin de la psychanalyse européenne et platonicienne, et puis l'espèce de zoo de la psychanalyse sauvage américaine qui permet tout et n'importe quoi? Moi, je pense effectivement qu'il y a, une bonne distance à trouver et qui fait que le psychanalyste, c'est pas le copain, mais c'est pas non plus le type qui dit, quelle que soit la question posée, réponse papa, maman, la bonne et vous. Et non, c'est autre chose. Mais pour ça, il faut une dose de pragmatisme, utilitarisme, nominalisme, et puis justement, éducation populaire. C'est-à-dire, faisons savoir ce qu'est la psychanalyse et ce qu'elle n'est pas. Ce que vous pouvez en faire et ce que vous ne pouvez pas en attendre. Ce qui est susceptible d'être utile pour vous et ce qui ne vous sera jamais utile parce que ça augmentera votre aliénation, votre servitude. Voilà pourquoi, je dirais, il y a cette année, pour que chacun, dans des logiques nominalistes, vous voyez ma conclusion, j'avance un peu doucement, non, mais que chacun dans une logique conséquentialiste mais personnelle, nominaliste et individuelle, se fabrique les matériaux qui lui permettront de régler son propre problème. Ça lui coûtera beaucoup moins cher.
Oui, bonsoir. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit sur Freud dans, il y a plusieurs séances, sur l'évolution des théories de Freud. Alors, la première topique, la deuxième topique... Vous aviez l'air de dire que c'était des contradictions, enfin, c'est plutôt des complémentarités d'un certain point de vue. Et puis enfin, vous avez terminé, à un moment donné, vous avez parlé de l'intérêt de Freud à la fin de sa vie sur les recherches de neurosciences. Et vous aviez parlé, dans un autre moment, d'un travail qui est fait sur la convergence entre les neurosciences et la psychanalyse. Alors je trouve ça, c'est très intéressant, et je ne vois pas en quoi Freud... On peut lui reprocher d'avoir évolué dans le temps, puisque de toute façon, les choses ont évolué, les circonstances ont évolué, les débats entre les psychanalystes ont fait qu'il a bougé ses positions, et en particulier sur la convergence entre les neurosciences et la psychanalyse, il y a une chose qui... Il y a des convergences, mais il y a quand même une limite. Les neurosciences, dans ce que j'ai lu en particulier, s'arrêtent. Il y a un moment donné où les neurosciences ne pourront pas décider pourquoi on aime quelque chose, pourquoi on décide de faire quelque chose. On ne peut pas localiser dans le cerveau quelque chose qui a une instance de décision. Alors ça pose la question du sujet, mais je voulais la question du sujet. Alors, si je prolonge cette réflexion, je ne vois pas pourquoi on continue à parler d'âme et d'esprit. Alors, j'attache beaucoup d'importance à ça, parce que le mot âme a une connotation religieuse. J'ai envie de me défaire de ça. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de tout ça.
Oui, mon problème n'est pas tant qu'on évolue, qu'on puisse, par exemple, en 1910 ou en 1911, faire l'éloge de la psychanalyse et en même temps recourir au fameux psychrophore, c'est une espèce d'instrument de torture gynécologique, pour... Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous dites la psychanalyse soigne et qu'en même temps vous prescrivez le psychrophore ou alors des médicaments, on se dit qu'il y a quand même une espèce de tromperie sur la marchandise. Donc, première chose. Deuxième chose, effectivement, dans un texte ultime, 1937, l'analyse sans fin, l'analyse avec fin, la question de l'analyse terminable ou interminable. Il n'en a plus rien à faire, Freud, maintenant. Il a fait sa vie. Il a un cancer qui lui détruit la mâchoire, qui lui pourrit l'existence. Il sait très bien qu'il ne va pas vivre encore très longtemps. C'est un vieux monsieur. Je pense qu'il songe depuis longtemps à la mort, à l'euthanasie et au suicide assisté. Il en parle à Max Schur, son médecin, et il sait qu'il va vers ça. Donc voilà, Freud, il a sa vie est finie. Il n'a plus de clientèle à se faire. Il n'a plus de réputation. Il sait que c'est fini, que c'est terminé. Il ajoute effectivement que... un jour, probablement, on découvrira sur le terrain des neurosciences, il n'utilise pas l'expression, mais enfin, sur le terrain du cerveau, de la chimie, de la biologie du cerveau, comment les choses fonctionnent peut-être. Il nous dit peut-être un jour, on saura qu'une névrose, une psychose, une paranoïa, une hystérie, etc., ça relève d'un dysfonctionnement neuronal et que des substances chimiques nous permettront de régler le problème. À quoi il ajoute, mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc il faut bien faire avec la psychanalyse. Moi, je ne suis pas contre. Je trouve même cette pensée assez belle, chez ce dernier Freud. Voilà un homme qui nous dit « Bon, ça y est, j'ai plus rien à prouver, puis j'ai plus rien à perdre maintenant, je peux dire la vérité », et qui nous dit « La psychanalyse, sur un mode dialectique, la psychanalyse, elle aura eu son utilité, et peut-être n'aura-t-elle plus d'utilité le jour où, effectivement, on aura résolu le problème, et qu'on n'aura pas besoin de renvoyer des histoires édipiennes, de castration, d'onanisme, de masturbation, ou ce genre de choses ». Donc je dis, pourquoi est-ce que la psychanalyse aujourd'hui cache ce texte, met de côté cette proposition de Freud qui nous dit, dans une espèce de sursaut d'honnêteté intellectuelle, qu'il a proposé une lecture du monde et que cette lecture du monde, elle est datée. On n'est jamais aussi grand que quand on est dialectique. C'est-à-dire, on n'est jamais aussi grand que quand on dit « ma pensée ne vaut que ponctuellement, momentanément, dans une histoire, dans un cadre. Elle est appelée à être dépassée ». Là, ça va. On sait très bien aujourd'hui que quand on fait une dépression nerveuse, on peut très bien vous donner des molécules qui vont permettre un bon fonctionnement des synapses, donc la transmission de l'énergie nerveuse. Et puis, voilà, vous aviez une espèce de dépression qui vous clouait à votre chaise ou à votre âme et vous vous sentiez l'âme lourde et pesante et envie de rien faire ou je ne sais quoi. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit « papa, maman, onanisme, castration, etc. » Puis vous avez quelqu'un qui vous dit « je vous prescris tel type de médicament ». Et vous avez, par une modification de la biochimie du cerveau, une guérison définitive. Donc Freud pressent ça. Il dit peut-être un jour, voilà, on est en 1937. C'est passé plus de 50 ans. Là, vous dites un demi-siècle plus tard, en 87, vous avez déjà des possibilités de réfléchir sur les questions des neurosciences. Des gens comme Changeux, des gens comme Jean-Didier Vincent ont produit des ouvrages. L'homme neuronal est un livre qui, d'un seul coup, vous dit, bon, il y a les neurones et il faut compter avec. Et comme il y a plusieurs questions dans votre question, j'essaie de répondre à vos questions successivement. J'ajouterai sur ce terrain-là, ou je préciserai sur ce terrain-là, que moi j'essaie d'éviter deux extrêmes qui sont d'une part l'irrationnel freudien et d'autre part l'ultra-rationalisme de ce que j'ai appelé ailleurs la raison moléculaire. Des gens qui vous disent « tout est dans le cerveau, tout est question de neurones et tout est réductible à une analyse biochimique du cerveau ». C'est plus compliqué que ça, le matérialisme, me semble-t-il. Vous avez une espèce de matérialisme positiviste, très hérité du XIXe siècle, où on vous dit souvent des anticléricaux, des anticurés, des antireligieux qui veulent absolument dire, voilà, le cerveau sécrète la pensée, comme à l'époque, on avait Claude Bernard qui nous expliquait que sur la fonction glycogénique du foie, on avait le même type de logique. Il faut aller un petit peu plus loin. Vous avez aujourd'hui des Américains qui vous font savoir que si on vous met des électrodes sur la tête et qu'on vous fait une analyse neuronale au moment où on va vous parler de Dieu, on va prononcer le nom de Dieu, eh bien vous allez avoir une zone qui va se trouver excitée particulièrement dans votre cerveau. C'est la preuve de l'existence de Dieu, nous disent ces neurologues. Ah oui, non, vous haussez les épaules, mais c'est la question des idées innées chez Descartes. Quand Descartes vous dit « mais si je vous dis Dieu, ça vous dit quelque chose ». Et pourquoi ça vous dit quelque chose? Parce que vous avez l'idée de Dieu en vous. Et qui peut mettre l'idée de Dieu en vous si ce n'est Dieu lui-même? Donc l'idée que le mot de Dieu renvoie chez vous à un sens, il y a une espèce d'articulation entre le signifiant de Dieu et le signifié de Dieu, c'est une preuve de l'existence de Dieu, nous dit Descartes. Mais vous avez là exactement la même chose. Vous avez quelqu'un qui peut pointer sur un écran sur lequel on verra votre cerveau réagir, parce que au moment où vous allez réfléchir, penser ou entendre un mot, vous allez consommer du sucre, puisque on sait que c'est comme ça que ça fonctionne et que la consommation du sucre, elle est susceptible d'être visible dans le cerveau au moment où vous êtes en train de penser. Et à ce moment-là, on vous dira « Regardez, c'est la zone de Dieu. Zone de Dieu égale preuve de l'existence de Dieu. » Non, il faut éviter ce genre de choses. Je dirais, autant l'idée que nous aurions une espèce de phylogénèse qui nous aurait fait être contemporains d'une scène de copulation primitive, de parents primitifs, parce que ça se serait transmis de manière phylogénétique, c'est une sottise, me semble-t-il, mais c'est une autre sottise de croire que dans le cerveau, il y aurait réponse à tout. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a réponse à rien dans le cerveau. Ça veut simplement dire que c'est une matière susceptible d'être informée. Le cerveau, c'est une matière vierge a priori, et quand d'un point de vue neuronal, on voit le cerveau se développer dans le ventre de la mère, il n'y a a priori rien dedans, a priori, pas grand-chose, rien, enfin sûrement pas de toute façon, ni des souvenirs, et très vite, il y a un certain nombre d'informations. Dès que ça commence, ça engramme, et à ce moment-là, vous informez la matière, et vous allez l'informer d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous allez avoir des désirs, des plaisirs, on est sur des choses extrêmement sommaires, des choses extrêmement simples, on a des sensations de plaisir, on a des sensations de déplaisir. Vous êtes dans le ventre de votre mère, vous avez cette femme a un mari, ce mari est peut-être alcoolique, agressif ou je ne sais quoi, et vous entendez, par exemple, le mari rentrer le soir. Vous avez les pas qui crissent sur le gravier dehors, je ne sais quoi. Et vous allez immédiatement, votre corps va réagir de manière négative à la présence physique de cet homme-là. L'homme en question rentre, je ne sais pas quoi, il vous frappe, enfin on va faire du Zola tant qu'à faire. Et puis il est alcoolique, et puis tout le tralala, vous avez la voix de cet homme qui va parvenir à l'enfant, au cerveau de l'enfant. Et cette voix, elle va être associée à des souvenirs désagréables, des souvenirs de stress. Tout ça, c'est engrammé dans le cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, il faut être nominaliste sur ce terrain-là, il y a dans le cerveau ce qui s'y trouve mis dans des expériences existentielles particulières. De sorte qu'un jour, vous allez pouvoir être, je ne sais pas quoi, moi, gérontophile, scatophile, pédophile, vous allez être porté vers des gens qui vous ressemblent, ou vers des gens qui vous font du mal, ou vers des gens qui vous font du bien. Enfin, après, vous allez avoir des goûts sexuels, vous allez avoir des goûts esthétiques, vous allez avoir un jugement de goût, ou vous n'aurez pas de jugement de goût. Enfin, toutes ces choses-là, elles sont construites d'un point de vue neuronal. Mais ce n'est pas parce que vous analysez, vous faites une prise de sang à quelqu'un quand il tombe amoureux, et que vous découvrez qu'il y a une forte concentration d'ocytocine, par exemple, que vous avez prouvé que la poule aux œufs d'or, c'est la poule aux œufs d'or, parce que, non, vous faites simplement la démonstration qu'effectivement, il y a des effets physiologiques à l'amour. Et bien sûr qu'il y a un certain nombre de substances qui sont euphoriques, euphorisantes. L'étymologie euphorie fait qu'on est bien porté. Donc on est dans cette logique-là parce qu'on est amoureux. Mais on n'est pas amoureux parce qu'on a ces substances-là. Ce n'est pas les substances qui d'un seul coup arrivent et vont générer l'amour. Non, c'est l'amour qui est là et qui va générer ces substances. Et l'amour, lui, n'aura rien à voir a priori avec les substances. Les substances, ce seront des effets, pas des causes. Et ce seront des effets à quelque chose d'autre. Un regard, un discours, une allure, une silhouette, un propos, une vibration de la voix, une espèce de spectre musical de la voix de la personne qui va nous séduire, qui va nous plaire, des odeurs, des parfums, des choses animales, enfin toutes choses qui font qu'on est tous subjectifs dans cette aventure et que notre cerveau va réagir, va interagir avec le monde. Donc l'idée qu'il y aurait, il y a des gens comme Pommier aujourd'hui qui travaillent sur ce terrain-là et qui disent les neurosciences font la preuve de l'existence des grands concepts freudiens. Et il y aurait la preuve neuronale de l'existence de l'inconscient freudien. Il y aurait une espèce de preuve visible de la première ou de la deuxième topique. Vous avez parlé tout à l'heure de la première et de la deuxième topique, mais j'avais, au moment où j'en avais dit deux mots, fait savoir que chez Freud, il y avait une proposition que tout le monde oubliait toujours, c'est-à-dire qu'il nous dit que son matériel conceptuel est allégorique, qu'il est métaphorique, faute de mieux. Hein, j'avais fait savoir ça. Et qu'effectivement, une fois, il pouvait changer d'angle d'attaque, et que si vous êtes en train de regarder une sculpture et que vous vous tournez et que vous regardez une sculpture, c'est la même sculpture, mais ce n'est pas la même sculpture. Donc j'avais fait savoir que l'inconscient chez Freud, en tant qu'il était une espèce de postulat performatif, permettait dans une première topique une espèce d'angle d'attaque, et puis dans une deuxième topique, un autre angle d'attaque, mais d'un même objet, qui lui, pour le coup, était allégorique. Donc je ne pense pas, ou je me serais fait mal comprendre, mais je ne pense pas avoir fait savoir que première et deuxième topique relevaient chez Freud de la contradiction. Je pense simplement que c'était deux façons différentes de dire une même chose. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y aurait une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième façon, et puis mille façons de dire une même chose. Et je pense que nous sommes prisonniers de notre temps, de notre époque, des choses qui sont fantasmatiques dans une époque, et le fantasme du 19e siècle, il est scientifique, il est positiviste. Et Freud lui-même est victime de ça, il veut absolument être un scientifique, alors qu'on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Donc il est dans des espèces de formatage positiviste ou scientifique ou faussement épistémologique de tel ou tel propos. Je pense que nous, aujourd'hui, on est victime aussi d'un tropisme contemporain qui serait le tropisme neuronal. On a eu un tropisme, mais ça, ce sont des travaux d'épistémologie. Il faudrait montrer qu'à une époque, il y a eu une espèce de tropisme d'informatique. On invente l'ordinateur, le fameux computer de l'époque, qui est un computer américain de recherche. Ce sont d'abord les militaires qui ont inventé ça pour avoir une communication ultra codée qui leur permet... Enfin bon, vous connaissez un peu l'histoire. Et d'un seul coup, l'émergence du modèle informatique va permettre de penser, du moins le croit-on, le fonctionnement du cerveau. Et d'un seul coup, le cerveau, ça devient un ordinateur, un immense ordinateur. Puis aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc on a travaillé sur la question de la génétique, et puis il y a eu un fantasme génétique où tout était génétique. Et à partir de ce moment-là, bon, la fameuse découverte de la fameuse acide désoxyribonucléique, ou de l'ARN ou de l'ADN, et d'un seul coup on se dit « Ah oui, il y a la génétique, c'est quand même extrêmement important ». Donc après, le modèle était ultra-génétique. Maintenant, on est dans des modèles neuronaux, où on pense effectivement que tout serait dans le cerveau, et qu'il suffit de relire Freud à la lumière de ce que les neurosciences enseignent pour comprendre que la neuroscience est une discipline qui fait la démonstration que les hypothèses freudiennes étaient fondées et qu'on peut fonder aujourd'hui, d'une certaine manière, en laboratoire, les intuitions freudiennes. À l'évidence, quand on vous aura parlé de Dieu, et tout le monde a entendu parler de Dieu, eh bien, il y aura effectivement une zone dans le cerveau qui va réagir à Dieu. Ce n'est pas la preuve de l'existence de Dieu, c'est la preuve qu'effectivement, on vous renvoyait à une zone qui elle-même aura été informée par vos parents, positivement, négativement, vos parents, vos éducateurs, l'époque, les instituteurs, les prêtres, enfin tous les gens que vous aurez pu rencontrer. Ne soyons pas non plus, nous, victimes de la neurobiologie d'aujourd'hui ou des neurosciences. N'oublions pas qu'elles existent, bien sûr, mais repensons à de nouveaux frais cette question-là. Ce qui nous permettrait, autre question dans votre question, de penser différemment la question de l'esprit, de l'âme, et de réutiliser ces mots-là. Moi, je les utilise sans difficulté, en faisant savoir à qui veut bien l'entendre que le concept d'âme n'a pas été inventé par le christianisme. Le concept d'âme, il existe dès que les philosophes se mettent à penser. Et vous avez des âmes matérielles, et vous avez des âmes immatérielles. Pythagore pensait à l'existence d'une âme immatérielle. L'idée de la métempsychose et de la métensomatose, c'est-à-dire l'idée que nous serions corps et âme, et que l'âme, elle serait immortelle pendant que le corps, lui, serait mortel et la mort nous séparerait le psyché et soma et qu'on aurait l'âme qui partirait d'un côté pour aller vers une espèce de ciel idéal où on pourrait se retrouver sans incarnation si on avait fait le travail nécessaire, si on avait été philosophe et qu'on avait fait ce qu'il fallait pour ne pas retomber dans un corps. Et puis d'autres qui se retrouvent réincarnés dans, je ne sais pas quoi, une chèvre, ou un président de la République, ou enfin ce que vous voudrez. Ça, c'est aussi vieux que la philosophie, l'idée d'une âme. Simplement, les grandes séparations, elles sont âme immatérielle ou âme matérielle. L'ami matériel, on peut en faire une histoire, c'est très exactement l'histoire officielle de la philosophie, c'est-à-dire l'âme de Platon. Lisez le Phédon et vous verrez, le Phédon, c'est un texte qui donne l'impression d'être un texte chrétien. Vous avez une âme matérielle, vous avez le corps matériel, vous avez le corps qui est une prison de l'âme, vous avez le corps qui va disparaître, mais l'âme qui va durer, l'idée que les philosophies, ce serait une culture de l'âme, qu'il faudrait maltraiter le corps, maltraiter la chair, ne pas donner de nourriture à la chair, c'est-à-dire pas de plaisir, pas de désir, pas de satisfaction, pas de sexualité, renoncement, on boit et on mange juste pour tenir le coup, mais on n'a pas de plaisir à tout ça. Enfin, toute cette tradition-là, elle est pythagoricienne, elle est platonicienne, elle est chrétienne, évidemment, Augustin, et puis tous les pères de l'Église, même si vous avez des pères de l'Église qui doutent un peu, Tertullien pense que l'âme est matérielle, par exemple, mais le christianisme va opter pour une âme immatérielle. C'est nettement plus facile de menacer les gens avec une âme immatérielle. Cette âme immatérielle, elle est immortelle, et si elle est immortelle, il y a un avenir après la mort pour l'âme. Est-ce que vous irez en enfer? Est-ce que vous irez au paradis? Est-ce que vous serez sauvé? Est-ce que vous serez damné? Et celui qui se dira prêtre, curé, ou je ne sais quoi, ou envoyé ou missionné par Dieu, aura le pouvoir sur votre âme, donc sur votre corps. Et puis, vous avez tout le Moyen-Âge. Et puis, vous avez la substance étendue, la substance pensante chez Descartes. Et puis, vous avez, etc. Enfin, on continue comme ça. Et toute l'histoire de la philosophie classique, elle défend l'idée d'une âme immatérielle, éternelle, immortelle, constituée d'une espèce d'antimatière. Elle n'a pas de matière, mais elle est. Psyché, c'est le papillon chez les Grecs. C'est aussi léger que ça, l'âme. Et puis, ça, dès que le corps n'est plus là pour la retenir au sol, eh bien, elle s'en va. Elle est libérée, et puis elle part vers l'éther et vers le ciel. Et puis, vous avez une tradition qui, elle, est tout à fait contemporaine à chaque fois de ceux dont j'ai parlé. Ce sont ceux dont on a parlé depuis 8 ans à l'Université populaire, c'est-à-dire c'est Leucippe et Démocrite, c'est Épicure, c'est Lucrèce, c'est Philodème de Gadara, ce sont les gnostiques licencieux, ce sont, etc. Et on continue comme ça jusqu'aux matérialistes du 18e, et tout le monde pense qu'il existe une âme, mais que l'âme, elle est matérielle, elle est constituée d'atomes, et que ces atomes, c'est l'agencement qui l'a fait être. C'est pas l'atome qui est suffisant, c'est l'agencement qui détermine ça. C'est-à-dire que la somme des atomes qui constituent votre cerveau ne suffira pas pour désigner votre génie. Votre génie, il est dans la modalité de l'agencement des atomes de votre propre cerveau. Et la mort, elle est quoi? Elle n'est pas la mort des atomes, elle est la mort de l'agencement. Et c'est tout le génie d'Épicure de nous dire que la physique, elle est l'occasion d'une métaphysique. Quand il nous dit « mais vous ne mourrez pas, vos atomes durent tout le temps, sans cesse ». Quand vous allez mourir, l'agencement atomique de votre propre corps va se modifier, bien sûr, mais la totalité des atomes restera intégralement dans cette planète. On n'ajoute pas et on ne retranche pas un seul atome de la planète depuis que la planète est planète. Donc on continue, il y a une espèce d'immortalité, on dirait, l'idée d'être immortel sous forme de pissenlit, de vers de terre ou ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Mais certains peuvent, Spinoza par exemple, plus subtilement faire savoir qu'il n'y a qu'une seule matière, qu'elle est diversement modifiée, et puis qu'après tout, quand on a compris qu'on était poussière d'étoiles, je ne dis pas ça, mais Spinoza, mais j'extrapole, mais qu'on était fragment du cosmos et qu'on était dans le cosmos, qu'on retournerait au cosmos et qu'on n'était que cosmos, il dit, mais si on a cette sagesse-là, il y a une espèce de sérénité, à savoir que l'âme, elle est immortelle et que ce qui la constitue est immortel, que simplement l'agencement qui sera le sien dans un moment précis est mortel et puis que, ben voilà, c'est ce qui fait la vie. Avant vous, les atomes qui font que vous étiez étaient, après vous, les atomes dureront et seront encore, pendant vous, ils existent dans un agencement tout à fait singulier, qui change. Même si Freud dit l'enfant est le père de l'homme, il n'empêche que ce sont tout de même les mêmes atomes sans que ce soit les mêmes atomes. Que reste-t-il qui soit commun aux atomes de notre enfance dans le corps qui est le nôtre aujourd'hui? On sait très bien qu'il y a des usures, qu'il y a des sculptures, les fameuses apoptoses des biologistes, une espèce de la mort qui habite la cellule et qui détruit la cellule, une espèce de programme dans chaque cellule qui fait qu'on va vers notre propre destin, une espèce d'immenses retardateurs, de réveil ou de sablier qui fait que notre destin, c'est ça et c'est pas autre chose. Donc, repensons à de nouveau frais la matière, repensons à de nouveau frais la question de l'âme, à de nouveau frais également la question de l'esprit. Et quand Spinoza dit « l'esprit, c'est ce qui enveloppe le corps », se dit « voilà une belle formule », et en même temps, au-delà de la formule, ben, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant de se dire « l'esprit, c'est ce qui enveloppe le corps ». C'est ce qui fait effectivement que la personne que vous aimez, eh bien, si vous aimez vraiment, c'est pas le corps que vous aimez, c'est cet esprit qui enveloppe le corps. C'est ce qui fait que c'est l'être entier. Donc c'est une odeur, c'est un parfum, c'est un vibrato dans la voix, enfin toutes choses qui font qu'on peut parler d'une âme matérielle, d'un esprit matériel. Donc il faut arracher le concept d'âme au christianisme pour dire que l'âme a existé indépendamment du christianisme, qu'elle doit pouvoir exister au-delà du christianisme et qu'elle a existé chez des philosophes et des penseurs matérialistes. Et qu'aujourd'hui, les modalités de la neuroscience nous permettent de penser l'âme et l'esprit à de nouveaux frais. On n'a pas besoin forcément de considérer qu'on ne peut plus utiliser ce mot-là parce qu'il aurait été usé par une religion et qu'on ne voudrait pas renvoyer à la fameuse âme des chrétiens. Non, je crois qu'il y a une âme, qu'il y a un esprit. Quand on est matérialiste, on peut défendre ce genre de choses. Et on peut effectivement, même si on n'est pas d'accord avec la psychanalyse freudienne, défendre l'idée d'une psychologie qui soit soucieuse du réel. Et ce que Georges Politzer appelait une psychologie concrète. Malheureusement trop tôt disparu, fusillé par les Allemands. Mais Georges Politzer avait commencé à réfléchir à ce qu'il appelait une psychologie concrète, après avoir été un peu séduit par la psychanalyse, parce que choquait le bourgeois et que lui était communiste, et il trouvait très bien ce qui pouvait emmerder le bourgeois. Mais quand il est revenu à des considérations un peu plus philosophique, je dirais, un peu moins de ressentiment ou passionnel, Politzer s'est dit, mais la psychologie concrète, ça c'est une piste. Et c'est une piste qui reste ouverte, quoi. C'est une route qu'il n'a pas empruntée longtemps parce qu'il est mort jeune, mais ça reste quelque chose à penser aujourd'hui. Je pense qu'une psychologie concrète ne pourrait pas faire l'économie des neurosciences, de la biologie, de l'éthologie, enfin de tout un tas d'autres disciplines, de la cosmologie dont je parlais tout à l'heure, plutôt de l'astrophysique, appelons ça comme ça. Je pense qu'à l'école, il faudrait enseigner l'astrophysique, expliquer aux enfants comment naissent les univers, comment sont nés les univers, comment la vie est arrivée sur cette planète, comment ça fonctionne, en disant cette immense chose est une toute petite chose en regard de ce qu'est le cosmos tout entier. Et à partir de ce moment-là, reproposer ou proposer à nouveau une théorie de l'anatomique. Et ça, c'est un chantier pour vous, ouvert et pour vous. Il y avait un livre de René Scherrer et de Guy Hockenheim qui s'appelait « L'âme atomique ». Et il se réclame de Fourier, de Charles Fourier. Donc c'est un livre intéressant justement pour penser l'âme dans des modalités matérielles qui ne sont pas pour autant matérialistes, et pas dans la stricte religion de la matière quand on est chez Scherrer et Hockenheim. Voilà, pour répondre à vos questions.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Jean-Noël Durand, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa.